Vous êtes avec SBS French.
On est avec Émilie Perrault de la société We Inclusive. Décrivez-nous un petit peu votre rôle dans une organisation.
Alors, mon rôle dans l'organisation, c'est d'aider l'équipe dirigeante à repositionner ses parties prenantes, que ce soit ses employés, ses clients, ses actionnaires, tout cet écosystème, de le repositionner au centre de leur stratégie. Pourquoi ? Pour que le changement se fasse de manière plus inclusive et donc mieux acceptée, et aussi pour que la croissance soit plus durable. Donc, on intervient auprès d'équipes dirigeantes, auprès d'équipes RH, pour vraiment les aider à poser le diagnostic, parce que chaque organisation approche la diversité et l'inclusion de manière très différente, à des niveaux de maturité qui sont aussi très différents. Et donc, on construit les réponses avec eux, en les challengeant un petit peu, parce que je considère vraiment capitaliser sur la diversité et l'inclusion, c'est un super avantage compétitif en termes d'engagement des salariés, en termes de satisfaction des clients, en termes de capacité à innover et aussi de travailler avec les pouvoirs publics qui de plus en plus demandent cette création de valeur sociale. Par contre, ça demande un petit peu je vais le dire en anglais, de discomfort. Voilà cette conversation qu'on n'est pas tout à fait à l'aise d'avoir parce qu'on n'a pas l'habitude, mais qui pousse finalement à voir les choses qu'on ne verrait pas normalement et à faire du business un petit peu différemment.
L'idée de diversité, c'est presque nouveau. Nous, à SBS, on est au cœur de la diversité. C'est ce qu'on a fait depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est une réalité même au sein d'SBS. C'est vraiment à tous les niveaux de l'entreprise, la diversité est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde se dirige vers quelque chose comme ça ?
Je crois vraiment. D'ailleurs, c'est vrai que je trouve que SBS fait ça très bien parce que j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que justement vous abordez et vous voyez cette opportunité d'un point de vue audience finalement, et en tout cas vos programmes le reflètent. Je crois que l'interview qu'on a aujourd'hui le reflète aussi. Je crois que c'est vraiment, il y a ce que j'appelle des driving forces qui sont des employés qui demandent de plus en plus à se sentir valorisé, à se sentir respecté, à pouvoir venir au travail, quelle que soit la couleur de leur peau, la langue qu'ils parlent, quelle que soit leur préférence et orientation sexuelle, quel que soit leur genre, etc. Donc, ils demandent ça et c'est vraiment un moyen de retenir des talents et de faire la différence. Je parlais tout à l'heure dans la conférence des fameux millennials qui, quand ils choisissent l'employeur pour lequel ils vont travailler, finalement, regardent ça. Regarde la marque employeur et regarde la position de l'entreprise sur ces sujets. Les consommateurs le demandent aussi. Edelman, qui est une grosse entreprise qui mesure la confiance qu'ont les consommateurs dans certaines marques, reporte que 2/3 des consommateurs achèteraient ou boycotteraient une marque juste par rapport aux positions que cette marque tient au sujet, sur des sujets politiques, sociaux et environnementaux. Donc, les forces sont là, je dirais. Je crois que ça va être difficile de faire autrement. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire, soit de le voir vraiment comme limiter son risque, ou de le voir, je pense, de manière plus stratégique et plus astucieuse, et de le mettre vraiment au cœur de sa proposition de valeur. Et c'est là que il est possible de maximiser tous les bénéfices.
Mais si la diversité, c'est un signe de modernité, il y a forcément aussi des entreprises qui sont un peu des mammouths là-dedans. Donc, est-ce que le vrai succès, ce sera quand on aura réussi à faire bouger un peu ces éléphants ?
Alors, je suis pas aussi critique vis-à-vis de ces éléphants et de ces mammouths. Pour y avoir travaillé de nombreuses années, mon background est dans le domaine des transports, de l'infrastructure. Donc oui, des très grosses entreprises, mais qui ont des effectifs qui sont très très élevés. Donc le sujet employé est au cœur de leurs préoccupations. Qui sont des entreprises dont les résultats est critiqué, regardé, comparé par l'opinion publique tous les jours. Si vous prenez les transports publics à Melbourne et que vous travaillez dans la presse, voilà, c'est là. Donc il devient difficile pour eux de faire autrement. Et je crois qu'ils le font. On a de plus en plus de CEO qui prennent parti et qui s'engagent sur ces sujets. Il y a des programmes qui sont en place. Il y a des objectifs qui sont fixés aussi par ces entreprises. Si on parle du Victoria, je pense que l'État pousse beaucoup à ça. Le contexte local est, je pense, très très favorable. Le gouvernement du Victoria a introduit il y a quelques années ce qu'on appelle le social procurement, et donc inciter, en fait utiliser leur pouvoir d'achat. Ils dépensent des milliards chaque année. Finalement, utiliser ce pouvoir d'achat pour transformer la société et regarder la value for money, non plus simplement la qualité du service ou du produit à tel prix, mais aussi quels sont les résultats en matière sociaux que cette dépense va pouvoir générer.
Mais tout ça, c'est pas un peu une perspective australienne? Je vais faire l'avocat du diable, mais en France, on n'est peut-être pas un petit peu plus réfractaire, un petit peu plus coincé. Est-ce que ça se débloquera à l'avenir? Quelle est votre vision un peu là-dessus?
Alors, je vois quand même. Je regarde la France à 16 000 km, hein, mais
oui, comme nous, hein, vous inquiétez pas. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on peut être critique. Hein.
À vous m'inciter à dire des choses. En tout cas, ce que je vois, c'est que les engagements semblent similaires, les actions semblent similaires. Il y a effectivement des initiatives, que ce soit dans les entreprises françaises ou dans les entreprises australiennes. Maintenant, il y a plusieurs choses qui diffèrent. Déjà, l'histoire, la legacy est vraiment différente. Ici, en Australie, il y a tout le sujet de la place des aborigènes dans la société, dans l'économie australienne. Bon, c'est quelque chose qui est très unique par rapport à l'Australie. Je dirais qu'en France, pour parler de l'histoire et de la legacy, on est plutôt les héritiers de la Révolution française. Donc on aime bien, effectivement, de ce que je peux voir, regarder ce sujet comme un sujet de confrontation, comme un sujet de contestation. Alors que ce que je perçois ici est beaucoup plus pragmatique. On va regarder la diversity and inclusion, comme je le disais tout à l'heure, comme une possibilité de faire du business, comme un potentiel à exploiter, être plus profitable. Donc oui, les recettes peuvent être différentes parce que le contexte est différent, le contexte économique aussi est différent. Voilà, je pense que, par exemple, pour dire ce que la France fait mieux, je pense que la conscience environnementale est plus importante en France. Peut-être que l'Australie, de manière plus astucieuse, je parlais du social procurement, se fonde en tout cas aujourd'hui et se focalise sur les enjeux sociaux.
Aujourd'hui, un mammouth, un éléphant a besoin d'une petite structure plus agile, plus flexible pour pouvoir se réformer? Donc en gros, est-ce que l'éléphant a besoin de sa petite souris?
Alors, je le souhaite, ayant récemment créé mon business, donc oui, Inclusive, qui vraiment assiste les compagnies dans cette voie. Je le pense parce que même si elles font beaucoup de choses, même s'il y a de l'engagement, des initiatives, etc., je crois que le changement est quand même assez lent, que les résultats ne sont pas là. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, ça nécessite un leadership qui est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut qu'on sorte un petit peu plus du groupthink et il faut pouvoir ce que je propose à mes clients, c'est de leur tendre le miroir pour qu'ils voient la réalité du monde dans lequel ils opèrent, la réalité de leurs salariés, l'expérience de leurs clients, et c'est assez powerful. Donc oui, je pense que je crois beaucoup au partenariat entre des entreprises très très agiles, très flexibles, plus libres aussi de dire les choses et d'aider dans un cadre bienveillant, avec, comme je le disais tout à l'heure, juste cette dose de discomfort pour aider à progresser sur le sujet.
Mais ça veut bien dire qu'une grosse entreprise, si elle veut faire appel à une petite entreprise, c'est déjà un acte de diversité.
Ah oui, alors pour les entreprises qui souhaiteraient travailler avec We Inclusive, c'est la possibilité de travailler avec une entreprise dirigée par une femme et en plus avec un background culturel et linguistique différent, ce qui devrait être la priorité des entreprises.
Tic et tic.
Tic et tic.
Merci.
Merci.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.